BFM Business, BFM Crypto, le club.
Le crypto, le club, avec nos trois invités aujourd'hui, avec notamment Laurent Pignon qui nous attend chez Zone Bourse aujourd'hui. Et puis dans un instant, on sera en plateau avec notamment Vincent Fourcault, fondateur chez Quantology, et avec également notre journaliste de Cryptost qui nous accompagne, Lilian. Juste avant, on va faire un détour par Zone Bourse avec donc Laurent Pignon qui nous attend aujourd'hui, avec ces derniers jours des séances de baisse, hein, notamment pour le Bitcoin. Un Bitcoin qui gravite autour des 21 000 dollars, hein.
Oui, c'est ça. Alors, on a un Bitcoin hein, qui a réussi à faire un gros rebond la semaine dernière, qui a franchi les 23 000 dollars pour atteindre même les 24 000 dollars. Mais on a vu qu'en fin de semaine, il est repassé en dessous de cette zone des 23 000 dollars et même est repoussé dans ses retranchements au niveau des 21 000 dollars. Et il a même réintégré hein, ce fameux canal des 19 000 à 22 000 dollars en étant à l'heure actuelle au niveau des 21 500 dollars. Alors, nous avons eu hein, des signes précurseurs d'un retour de la confiance des investisseurs sur le marché des crypto-monnaies, notamment avec le Crypto Fear and Greed Index, donc cet indice qui représente un petit peu le sentiment et la confiance des investisseurs sur le marché. On voit qu'on est sorti de l'extrême peur, donc cette zone qu'on avait gardée pendant plus de 70 jours depuis le début du mois de mai. Donc ça, c'est un premier signal positif. On a eu aussi un retour des flux dans les altcoins, donc c'est les crypto-monnaies qui sont autres que le Bitcoin, au niveau de la fin de la semaine dernière. Donc ça aussi, c'est un signal positif sur les crypto-monnaies. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis aussi de rebondir, que le Bitcoin rebondisse à partir de mi-juin au niveau des 17 500 dollars. Donc nous retrouvons aussi dans un signal assez positif sur le court terme, mais à long terme, on est toujours bloqué dans cette zone qui est très baissière hein, depuis novembre. Donc nous avons du mal à s'extirper de cette zone. Alors quels sont les niveaux techniques à surveiller à court terme? Donc pour le Bitcoin, comme je le disais, on est de retour entre les 19 000 et les 22 000 dollars. Alors ce que je surveille à très court terme, bien évidemment, c'est la bougie impulsive de mi-juillet, donc du 18 juillet, où nous avons eu une grosse bougie puissante au niveau des 20 700 dollars. Donc pour l'instant, nous sommes toujours au-dessus, donc ça reste très positif. Si nous passons en dessous de ce niveau, à ce moment-là, nous aurons de nouveau un signal négatif. Pour l'instant, nous restons dans cette zone de neutralité. Et nous revenons, comme je disais, dans cette borne, donc dans cette zone de neutralité au niveau des 19 000, 22 000 dollars. Si on dézoome, ce que je regarde, c'est surtout le niveau des 30 000 dollars, personnellement. Tant que nous restons en dessous de ce niveau-là, nous restons dans cette tendance de fond qui est baissière. Donc je reste prudent, la prudence est de mise toujours sur ces niveaux-là, en attendant des signaux vraiment, vraiment positifs. Donc voilà, il faut rester prudent dans un contexte qui est toujours un petit peu compliqué au niveau macroéconomique et qui n'est pas forcément favorable pour un retour des capitaux sur le marché des actifs numériques.
À l'inverse, on a un Ether, lui, qui surperforme le Bitcoin ces derniers jours.
Oui, effectivement. Hein, on a, alors, à très court terme, on a un Ether qui est impacté par la baisse du Bitcoin depuis ce début de semaine. On a un Bitcoin qui affiche un moins 6% alors qu'un Ether affiche un moins 8% depuis le début de la semaine. En revanche, si on dézoome un petit peu et qu'on regarde depuis le début du mois, on a une nette surperformance de l'Ether avec plus 36% pour l'Ether depuis le début du mois, pour un léger 7% pour le Bitcoin. Alors c'est une hausse de l'Ether qui s'explique notamment avec la précision donc de The Merge. Donc c'est la migration du consensus des mineurs de la preuve de travail à la preuve d'enjeu qui devrait avoir lieu donc le 19 septembre autour de cette date. Donc c'est forcément un catalyseur haussier pour l'Ether, du moins à court terme. Alors l'Ether est sorti de sa zone de neutralité par rapport au Bitcoin, donc c'était cette zone des 1250 dollars par le haut et 1000 dollars par le bas. Donc nous restons au-dessus pour l'Ether au niveau des 1450 dollars à l'heure actuelle, au niveau des 1500 dollars même. Donc ça reste positif sur l'Ether. En revanche, on le sait, le Bitcoin a tendance à driver le marché. Donc si on a une chute drastique du Bitcoin à court terme, l'Ether ne résistera pas et sera enfoncé au même titre que le Bitcoin. Donc pour l'instant, attendons des signaux vraiment positifs avant de se positionner et restons prudents aussi bien sur le Bitcoin que sur l'Ether.
En deux mots, est-ce qu'il y a des cryptos là que vous surveillez d'un niveau graphique qui semblent être intéressantes?
Alors vous vous en doutez, hein, la situation est assez similaire. Hein, le Bitcoin emporte tous les autres actifs avec lui globalement. Alors on a eu un fort rebond de certaines crypto-monnaies en fin de semaine dernière et puis là on a un retracement depuis ce début de semaine. Alors on a quelques crypto-monnaies comme Atom qui a dépassé ce niveau des 9 dollars. C'était un niveau en unité de temps hebdomadaire qui était très important avec un support qui a duré, qui était très important, et une résistance qui était très importante, donc c'était ce niveau des 9 dollars. Et puis on a aussi le Matic qui a fortement progressé ces dernières semaines et qui se retrouve là aussi dans une tendance à court terme qui est très intéressante. Donc c'est ces deux crypto-monnaies que je surveille actuellement, et tout en regardant bien évidemment le Bitcoin et ses agissements qui dirigeront le marché, comme je le disais.
Merci beaucoup Laurent Pignon, donc, qui nous accompagnait aujourd'hui depuis Zone Bourse en direct. Merci d'avoir fait un point donc sur le Bitcoin, sur l'Ether et également sur les autres crypto-monnaies. On est ensemble bien sûr jusqu'à 17h en direct dans BFM Crypto avec nos deux invités également qui sont en plateau, Lilian Aliaga, journaliste chez Cryptost, et puis on accueille également avec plaisir Vincent Fourcault, fondateur de Quantology Capital Management. Vous analysez le marché américain, mais pas seulement, et puis avec vous on parlera notamment dans un instant de la thématique avec le métaverse. Juste avant, Lilian, avec vous, on va regarder ce qui se place également du côté de la publicité, des influenceurs, avec l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, le gendarme de la bourse, qui surveille de plus en plus les influenceurs qui, sur TikTok, Instagram, etc., ont fait la promotion des crypto-monnaies. Et bien sûr, il ne faut pas toujours tomber dans le panneau.
Voilà, c'est ça. Alors c'est donc l'AMF, évidemment le gendarme financier français, qui s'est associé avec l'autorité de régulation professionnelle des publicités, l'ARPP, pour justement essayer d'encadrer la publicité qui est réalisée par les influenceurs crypto, comme vous avez expliqué, sur les différents réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, Twitter, TikTok aussi, Instagram, YouTube, etc. Alors on le sait, l'AMF s'intéresse justement à la publicité dans le domaine des cryptos, mais c'est bien la première fois qu'il mentionne le terme d'influenceur, et c'est ça qui est assez intéressant, parce qu'on le sait, il y a des dérives de ce côté-là, alors pas de la part de tous les influenceurs, bien sûr, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a certains influenceurs qui profitent de leur visibilité pour justement faire la promotion de projets qui peuvent être des projets frauduleux, et donc qui mettent à risque les finances de leur communauté, qui peuvent investir donc dans ces projets en pensant que ce sont des projets légitimes et qui perdent évidemment de l'argent. Donc l'objectif pour l'AMF, c'est de créer un certificat de l'influence responsable qui existe déjà mais qui sera adapté justement au domaine des cryptos. Et les objectifs donc de ce certificat, c'est d'une part d'avoir une communication plus claire et non trompeuse de la part des influenceurs, donc ça c'est assez logique. Évidemment, et ça c'est important, d'indiquer le caractère rémunéré de la publication, parce que ça c'est quelque chose qui est fait évidemment dans les médias mais qui n'est pas toujours fait du côté des influenceurs. Et puis aussi une mention éventuellement des conflits d'intérêts s'il doit y en avoir. Moi, je trouve que c'est assez intéressant comme actualité. Alors, bien sûr, ça va être compliqué à mettre en place, on s'en doute, parce que ça demandera de veiller quotidiennement sur les publications sur les réseaux sociaux et sur tous les réseaux sociaux en plus. Mais c'est absolument important dans le sens où, comme l'explique l'ARPP, eh bien, il y a plus d'un quart des contenus des influenceurs qui ne sont pas transparents au niveau du contenu sponsorisé, de l'information sur le fait que c'est du contenu sponsorisé.
Et donc vigilance, bien sûr, sur ce sujet. Tout à fait. Sachant que là, donc, on parlait de l'AMF, donc c'est en France, c'est l'autorité des marchés financiers. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, on a également la SEC, donc c'est un petit peu la même chose que l'AMF, qui là également regarde ce qui se passe du côté des crypto-monnaies, surtout avec Coinbase.
Voilà, en effet, la SEC, donc, qui est, comme vous l'expliquez, le gendarme financier, mais américain, qui a ouvert une enquête sur Coinbase, la première plateforme d'échange de crypto-monnaies américaine, au sujet du listing de certains de ses tokens, et plus principalement du fait qu'ils ont listé des tokens qui, selon la SEC, bien entendu, auraient dû être enregistrés au préalable en tant que securities, donc en tant que titres, finalement, actions, obligations, etc. Donc c'est pas forcément une surprise cette enquête, parce qu'il y a une affaire qui touchait Coinbase depuis maintenant plusieurs semaines au sujet d'un délit d'initié de certains des employés de Coinbase qui auraient profité de leur position et des informations qu'ils avaient en interne pour trader des actifs qui devaient être listés justement sur la plateforme. Et on le sait, quand Coinbase liste un actif, enfin une crypto-monnaie, souvent le cours de cette crypto-monnaie a tendance à monter, et donc ils ont profité de ça, ils ont été évidemment licenciés par Coinbase, mais ça a permis à la SEC de mettre en lumière le fait que certains des actifs listés sur la plateforme pouvaient poser problème. Donc, pour le moment, Coinbase n'a pas répondu, si ce n'est un communiqué sur leur blog qui titre « Coinbase ne liste pas de titres, fin de l'histoire ». Donc, ça montre que Coinbase n'est pas forcément ouvert à la discussion. Les relations entre le gendarme financier américain et la plateforme d'échange de crypto n'étaient pas forcément au beau fixe, et ça risque pas de s'améliorer à l'avenir. Donc, il faudra surveiller ça de très près, parce que ça peut éventuellement impacter le marché des cryptos.
Vincent Fourcault, j'imagine que vous n'êtes pas passé à côté de cette actualité, bien sûr, aux États-Unis avec le gendarme américain, donc la SEC qui ouvre une enquête sur Coinbase.
Ah, c'est vrai que Quantology Capital, on est une société de gestion de portefeuille soumise à la réglementation AMF, Autorité des marchés financiers, et on regarde tout ce qui se pratique, tout ce qui se dit, puisque évidemment on investit sur le marché US et en particulier sur les entreprises dites du métaverse et donc qui bénéficient parfois de l'écosystème des crypto-monnaies. Et évidemment, on suit très près toutes les problématiques de réputation, parce que vous avez clairement un problème de réputation et d'image sur l'ensemble de l'industrie des cryptocurrencies. Le news flow a été très mauvais ces dernières semaines et de façon ininterrompue, et donc ce qui explique aussi pourquoi il y a des dégagements très significatifs de capitaux, à la fois de la part de particuliers mais aussi d'institutionnels qui étaient rentrés en fin d'année sur les cryptocurrencies, en particulier Ethereum et Bitcoin, et puis sans parler du scandale Luna. Donc effectivement, tous les jours, enfin quasiment toutes les semaines, on a une actualité majeure liée aux cryptocurrencies avec des accidents. Et des accidents qui se chiffrent en milliards. Donc, à un moment donné, il y a des gens qui perdent de l'argent et les gens partagent l'information sur les forums et ça renvoie une image délétère, en tout cas.
Oui, et après, il y a aussi un autre fonds aux États-Unis, hein, c'est un hedge fund qui, là, a carrément fait faillite. Avec notamment la baisse des cryptos, j'imagine que ça pesait également dans les encours.
Il y a eu du hot money, comme on dit. Three Arrow, qui est un hedge fund aux États-Unis, a proposé d'investir sur des NFT, sur des tokens, avec beaucoup de capitaux qui sont arrivés massivement en 2021. D'ailleurs, on a regardé les indicateurs de capitaux investis sur les NFT. On est passé de 25 millions de dollars en 2020 à 100 millions de dollars en 2020 à 25 milliards. En 2021. C'est-à-dire que l'investissement sur les cryptocurrencies, les NFT, a augmenté de 2500%. Donc, effectivement, il y a eu un flux de capitaux qui a été tellement significatif qu'il fallait se loger quelque part. Il y a eu les effets prix que vous avez vus, l'Ethereum qui a flambé, et là vous avez une polarisation d'investisseurs. Malheureusement, à partir du moment où on entend parler de quelque chose, il faut sortir peut-être de l'actif, attendre que ça retombe et revenir, et c'est peut-être le moment aujourd'hui.
C'est peut-être le moment aujourd'hui, Lilian ?
Alors, on ne fait bien sûr pas de conseils en investissement. Ouais. Non, mais justement, le fait qu'il y ait énormément comme ça d'actualités qui soient très négatives, on voit le sentiment sur le marché des cryptos, il est très mauvais en ce moment du côté des investisseurs. Comme tu expliquais tout à l'heure, il y a beaucoup d'institutionnels qui commencent à se décharger. On parlait de 230 000 bitcoins qui ont été vendus par les institutionnels sur les deux derniers mois. C'est assez énorme, vendu à perte, bien entendu. Et d'un autre côté, par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que du côté de ce qu'on appelle les petites mains, donc ces investisseurs qui possèdent moins d'un bitcoin, eh bien, ils continuent d'accumuler à hauteur de 5% de plus que ce qu'ils avaient auparavant. Donc, c'est peut-être des bons signes du fait que, en effet, eh bien, on peut peut-être pas tomber plus bas et que le marché risque de remonter à l'avenir.
Alors, dans votre revue de presse aussi, l'actualité ces derniers jours, on l'a vu avec la publication, c'est toujours aux États-Unis, hein, décidément, mais Tesla, lors de la publication de ses résultats, dans les comptes, on a bien vu qu'ils avaient liquidé en partie leur position sur les crypto-monnaies, avec notamment le Bitcoin. Un milliard de profit quand même, hein, malgré un Bitcoin à 20 000 dollars, ils ont réussi à réaliser du profit.
Tesla est un hedge fund aussi. Ouais. Voilà, hein, donc il y a un problème peut-être de manipulation d'une certaine audience naturelle autour de Tesla, par exemple quand ils ont parlé du Dogecoin aussi. Donc il y a eu encore des affaires, peut-être d'alignement d'intérêts à justifier du point de vue de Tesla et d'Elon Musk. Ça a fait gros bruit parce que quand on regarde les résultats de Tesla, c'est pas fabuleux, à l'exception de ce gain formidable d'un milliard, en ayant vendu 75% de leur participation dans le Bitcoin. Pourquoi pas, ils vont peut-être revenir. C'est peut-être un agent économique qu'il faut suivre sur les achats-ventes. Mais en tout cas, ça s'est fait le trimestre d'avant. Donc, nous, on a un petit décalage. Hein. Ça s'est fait sur le trimestre d'avant. Donc, peut-être qu'ils sont en train de revenir et on ne le sait pas.
Ils sont rentrés très tôt, alors, quand même. Parce que pour pouvoir faire une plus-value à plus de 20 000 dollars, enfin, oui, comme vous dites, après, c'était au cours des dernières semaines, du dernier trimestre. Donc, on ne sait pas à combien ils ont vendu leur crypto, mais quand même, ils ont réalisé plus d'un milliard de profits.
Ils sont rentrés il y a un petit peu plus d'un an, et justement, ça avait fait énormément de bruit parce que, vous le savez, Elon Musk est très présent sur les réseaux sociaux, il communique énormément là-dessus, et donc, lorsqu'il avait annoncé que Tesla avait investi dans le Bitcoin. Ça avait poussé le prix du Bitcoin énormément. Ça lui a permis d'ailleurs de dépasser la barre des 38 000 dollars, atteindre 42 000 dollars en l'espace de quelques jours à peine. Ça avait été énorme. Et donc, oui, en effet, ils sont rentrés. Alors, relativement tôt, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont rentrés suffisamment tôt pour permettre de sortir avant d'essuyer trop de pertes.
Et est-ce que ça a envoyé un message quand même au marché? Est-ce que ça fait baisser les crypto-monnaies là, ces derniers jours, le fait de dire, bah, nous, Tesla, on sort?
Ça, en tout cas, je ne pense pas que ça a vraiment eu un impact sur l'état du marché des crypto-monnaies, puisque justement, comme on l'expliquait, l'état était déjà au plus bas, le sentiment était déjà au plus bas. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est de voir qu'une actualité comme celle-ci, qui en période de bull market aurait eu un impact énorme sur le cours des crypto-monnaies et du Bitcoin, n'a eu quasiment aucun impact aujourd'hui parce que les gens se désintéressent de toutes ces actualités. Et donc ça montre aussi justement que peut-être que c'est le moment en tout cas de s'intéresser.
Le marché semble devenir autonome, effectivement, se désensibiliser de ce type d'informations. En particulier, c'est un marché, si on agrège toutes les cryptocurrencies, on est à près de 1000 milliards. On vient de 3000 milliards, donc on s'est pris quand même un shoot, hein, comme on dit. On a moins 66% en moyenne sur les cryptocurrencies, ce qui est énorme.
Depuis le début de l'année ?
Depuis son plus haut.
D'accord.
Depuis son plus haut. Donc on est vraiment ce qu'on appelle dans un crash, hein, dans un crash de marché. Donc la question, c'est est-ce que les opérateurs sont en train de panser leurs blessures? Moi, je pense que les particuliers, et je parle d'intelligence collective, parce que nous, on adore l'intelligence collective chez Cantology, on analyse le comportement des agents et des investisseurs, et c'est ça qu'on essaie de décrypter pour avoir un petit temps d'avance et sur le côté prédictif de la prise de décision des investisseurs. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on a le sentiment que ces cryptocurrencies se stabilisent, hein, je ne fais pas de l'analyse graphique, mais ça semble se stabiliser malgré un news flow négatif. Donc c'est peut-être le moment qu'il faut peut-être regarder, ouvrir le dossier, peut-être pour les institutionnels qui sont souvent en retard sur le cycle des premiers intervenants. Et les hedge funds, peut-être que c'est eux qui font le marché en ce moment.
Lilian, oui. Non mais c'est sûr que ça passe pas inaperçu quand même, surtout Tesla qui a fait monter le Bitcoin, etc., qui là quand même envoie un message assez fort.
Ça passe pas inaperçu, tout à fait, mais voilà, on sent aussi qu'Elon Musk, de toute manière, son influence est en train de baisser dans le secteur des cryptos. Il a fait un peu la pluie et le beau temps pendant un petit moment, jusqu'au moment où les gens ont commencé à se lasser de toutes ces sorties publiques sur Twitter, de son influence notamment sur le cours du Dogecoin. Et donc, on voit clairement que l'intelligence collective au niveau des petits investisseurs est en train de faire ses preuves. Les investisseurs commencent à se détacher de toutes ces mauvaises actualités en se disant que les fondamentaux sont là, continuent d'investir et on attend que ça reparte à la hausse. Donc, c'est tant mieux.
Vous avez quand même un tiers des jeunes Américains, moins de 25 ans, qui possèdent des crypto-monnaies.
Ouais, c'est impressionnant.
C'est plus que des actions.
Hein. Oui, on en a souvent parlé. Hein. Même une étude de la BCE qui montrait l'engouement autour des crypto-monnaies en Europe. Tout autre sujet avec le métaverse, hein, sujet que vous connaissez bien tous les deux. Avec une dernière étude là, qui montre, Lilian, que le métaverse, l'accueil est assez mitigé quand même.
Ouais. Alors le métaverse, c'était la grosse tendance de 2022, le mot qui était dans toutes les bouches de tous les crypto-fans. C'est une tendance qui a été, entre guillemets, lancée par Facebook en octobre dernier, lorsqu'ils ont annoncé se rebaptiser en Meta, en référence bien entendu au métaverse. Depuis, il y a énormément d'entreprises qui s'y sont intéressées. D'ailleurs, des entreprises qui soient du Web3 ou d'à côté, enfin de tout le domaine Web2 et autres. Qui ont commencé à essayer de surfer cette tendance, de se plonger dans le métaverse. Et pour cause, on parle d'un secteur qui a un avenir très prometteur. On parlait d'éventuellement 800 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2024, donc c'est quand même très proche. Mais voilà, actuellement, le métaverse, ça pose des questions parce qu'on voit que ça peine à trouver son public. On a du mal à savoir qui sont ces utilisateurs du métaverse. Et justement, il y a une enquête qui a été publiée par le cabinet CensusWide qui essaye de répondre à cette question-là et qui montre justement qu'il y a une vraie décorrélation entre aujourd'hui l'état du marché du métaverse, que proposent les entreprises dans le métaverse et ce que voudraient voir les potentiels futurs consommateurs. D'abord, évidemment, sans grosse surprise, on voit que la tranche d'âge qui s'intéresse le plus au métavers, ce sont les 18-25 ans. Et puis, l'intérêt décline au fur et à mesure qu'on avance dans les tranches d'âge. Bon, ça, c'est pas vraiment une grosse surprise. Mais surtout, ce qu'on apprend, c'est que à peu près trois quarts des personnes interrogées estiment que pour eux, le métaverse, c'est un monde virtuel dans lequel on aurait énormément de nouvelles fonctionnalités vraiment différentes de ce qu'on a dans la réalité aujourd'hui. Plein de fonctionnalités, par exemple, vous faites vos courses dans le métaverse, vous attrapez un produit, vous avez toutes les informations sur la provenance de ce produit, la consommation énergétique, ainsi de suite. Bref. Et d'un autre côté, on a la majorité aussi des personnes interrogées qui expliquent qu'à l'inverse, ils voudraient quand même que le métaverse, ça reste très proche de la réalité et ils sont pas trop capables de savoir exactement ce que c'est. Donc on voit que déjà, il y a un vrai flou, une vraie incompréhension sur ce qu'est le métaverse réellement.
Et d'un autre côté, on a des entreprises, notamment Microsoft hier, ou des études qui montrent qu'il y a un marché autour de ce métaverse, Vincent.
Il y a un marché qui se crée. C'est sûr, puisque les grands dirigeants d'entreprise, et c'est une étude de McKinsey qui date du 15 juin dernier, qui dit que 95% des gens qui dirigent les entreprises sont persuadés qu'à l'horizon de 5 à 10 ans, ça va bouleverser leur activité économique. Donc, alors peut-être qu'il y a un problème d'alignement d'intérêt avec McKinsey qui cherche des clients pour vendre du métaverse aujourd'hui. Certainement, il y a toujours des sujets d'alignement d'intérêt. On le voit avec le sujet de Coinbase tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a des dirigeants d'entreprise qui croient à cette génération et à cette génération qui valorise le métaverse. Beaucoup de gens de mon âge, qui ont 40 ans ou plus, sont en refus de ça, comme une nouvelle contrainte, une nouvelle obligation de s'éloigner de la vie réelle. Et puis des jeunes qui sont très à l'aise avec les usages nouveaux et qui y trouvent de la productivité. Et Mesh de Microsoft, qui vient de publier ses résultats, Mesh est en fait le concurrent de Meta, donc de Facebook, mais dans une logique de plateforme métaverse, donc un univers digital virtuel en B2B, en business to business, pour permettre aux entreprises de se retrouver lors de rendez-vous. On parlait de Zoom, on parlait de Teams, mais sont allés beaucoup plus loin, où vous allez pouvoir, avec votre avatar, évoluer dans un cadre de travail, dans l'usine, et montrer quelle est la market practice d'un métier ou d'une activité. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas en tête. Ils ne voient pas cette productivité qui est pour l'entreprise. Je pense que le premier qui va adopter, c'est l'entreprise, finalement. Et dans un second temps, très proche, ce seront les activités liées à la distribution retail. Tout le monde disait, il y a 25 ans, on risque pas de vendre un jean par Internet. N'empêche que je pense que le premier canal de distribution des paires de chaussures et des jeans, c'est Internet. Et c'est pas dans la distribution physique.
Et on l'a vu avec LVMH, notamment au salon Vivatech, le métaverse. On l'a vu avec Carrefour également qui se lance dans le métaverse. Donc on a des groupes qui tentent leur chance quand même dans le métaverse.
Effectivement, Facebook, c'est 10 milliards d'investissements l'année dernière. Microsoft, qui a réalisé 100 milliards de cash flow au cours de ses 4 derniers trimestres, près de 100 milliards de free cash flow. Écoutez, si on pense que demain, c'est l'avenir, le métaverse, ils vont mettre quelques milliards. Aucune chance qu'un acteur européen puisse rivaliser avec ses acteurs américains. C'est dommage, mais parce qu'il nous manque un train de retard avec le web 2.0, enfin depuis Internet, depuis 25 ans.
Et vous, chez Quantologie, quand vous regardez un petit peu le marché, ça donne quoi là, le métaverse? Parce que là, on cite Carrefour, on cite les grandes sociétés, mais quel engouement, quelle est aujourd'hui l'utilité perçue par le métaverse?
Tout à l'heure, vous parliez de 800 milliards de facturation en 2024. C'est une étude. L'étude de McKinsey parle de 5 trillions en 2030, 5 000 milliards. Pour l'instant, on ne le voit pas dans les chiffres des entreprises cotées. Elles sont très silencieuses pour des raisons peut-être stratégiques. En tout cas, il y a beaucoup d'investissements de la part de ces entreprises et on le voit dans le salaire des spécialistes et des experts du sujet. Donc voilà, en tout cas, il y a de l'investissement. On devrait voir du chiffre d'affaires tangible dans quelques semestres.
Lilian?
Moi, je suis complètement d'accord. Dans les faits, il y a énormément de grosses entreprises qui investissent dans le secteur du métaverse. Vous en avez cité certaines, Carrefour, LVMH, etc. Facebook, évidemment, Meta maintenant. Mais la réalité, c'est que, comme l'explique d'ailleurs cette étude du cabinet, c'est qu'on a une vraie divergence quand même entre aujourd'hui ce qu'on propose dans le métaverse et ce que veulent véritablement les utilisateurs. Aujourd'hui, on cherche encore des véritables utilisateurs du métaverse. On en trouve peu. Et justement, le grand défi de toutes ces entreprises qui investissent des milliards dans ce secteur, ce sera d'être à l'écoute des utilisateurs pour créer le métaverse dont ils ont envie. Parce que s'ils créent un métaverse qui est complètement décorrélé de la réalité et de l'envie des consommateurs, ils ne trouveront pas de clients. Et on le sait, ce sont ces futurs consommateurs qui dicteront l'avenir du secteur du métaverse.
Vincent, il nous reste une minute si on veut conclure là sur le métaverse. Aujourd'hui, comment il va pouvoir réussir à convaincre le consommateur. Parce qu'on le rappelle, le métavers, c'est pas regarder comme ça sur son écran. Il faut quand même.
C'est une immersion.
Bah voilà, il faut de l'immersion. Il faut pouvoir avoir le masque ou avoir les objets qui permettent de se mettre dans le métavers.
Le coût d'opportunité pour un Microsoft ou un Facebook renommé Meta est très faible. C'est quelques milliards pour prendre une position dominante. C'est comme les autoroutes en France. Il n'y en a qu'une pour aller de Paris à Marseille ou à Lyon, etc. Donc vous êtes contraint. Le jour où vous allez dans un métaverse, vous êtes un peu locké, un peu le système Apple. Donc aujourd'hui, il y a des gros investissements parce que finalement, pour nous, c'est gros, pour eux, c'est faible. Mais le coût d'opportunité est faible, ramené à l'opportunité business que peut représenter une autoroute du métaverse.
Il ne faut pas louper le train.
Il faut pas
louper le train. On se dit, si on arrive dans 5 ans, c'est fini.
Peut-être qu'ils vont cramer plusieurs dizaines de milliards. Mais au moins, ils l'auront fait, ils n'auront pas de regrets. Parce que les positions, il faut les prendre maintenant.
Merci beaucoup. Merci Vincent Fourcault, fondateur de Quantology Capital Management. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour ce tour d'horizon sur les crypto-monnaies, sur le métaverse. Et merci également à Lilian Aliaga, journaliste chez Cryptos. Merci de nous avoir accompagnés également aujourd'hui. Et puis tout à l'heure, on était au téléphone également avec Laurent Pignot, analyste chez Zone Bourse, qui faisait un point également sur les différentes crypto-monnaies. Quasiment 17h. On se retrouve dans 2 minutes après une très courte pause. Et puis ça sera le club BFM Bourse jusqu'à 17h35, jusqu'à la clôture des marchés en Europe. À tout de suite.